Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Aujourd'hui, nous sommes bien le quatrième vendredi du mois et c'est donc la Fondation Copernic qui a investi l'émission Mode d'emploi pour remettre à l'endroit ce que le libéralisme fait fonctionner à l'envers, avec aux manettes Claude et comme animateurs Mathieu et Damien. Ce soir, nous nous intéressons au tourisme durable et à ses nombreux concepts. Tourisme durable, tourisme solidaire, écotourisme, volontourisme. Il est aujourd'hui assez difficile de s'y retrouver entre ces nombreuses appellations et ces différents labels qui courent autour de ces sujets. Pour discuter de toutes ces questions et puis aborder également les pratiques du tourisme durable et ses bénéfices et ses limites, la Fondation Copernic reçoit deux invités, donc Ophélie Cohen, que nous recevons en studio, donc responsable édition des guides Viatao, mais je crois que vous avez changé de titre il n'y a pas longtemps. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Donc une petite présentation rapide. Vous êtes passionné de culture de voyage. Vous avez lancé en 2005 un portail web dédié aux cultures et aux musiques du monde. Vous êtes également productrice de films et d'émissions de radio et engagée donc dans l'équipe de Viatao depuis 2010.
Exactement.
Et par téléphone, donc Jean-Pierre Lamique, bonsoir. Ah, il n'est peut-être pas encore arrivé.
Bonsoir.
Ah, bonsoir Jean-Pierre. Donc vous êtes directeur et même fondateur de l'association des voyageurs et voyagistes éco-responsables. Donc vous êtes un grand voyageur, donc vous allez pouvoir nous expliquer plus en détail ce que vous faites. Accompagnateur en montagne et moniteur de ski, praticien du tourisme culturel et d'aventure depuis 30 ans. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, dont « Tourisme durable, utopie ou réalité », donc écrit en 2008, et « De sport d'hiver durable, les pistes du possible » en 2010. La semaine prochaine, vous pourrez retrouver cette émission, comme toutes les précédentes, sur le site de l'émission Mode d'emploi, mais également en rediffusion sur Fréquence Paris Pluriel, mercredi prochain à 7h du matin en rediffusion.
Alors, on va poser la première question à Jean-Pierre Lamique, peut-être, sur une petite définition pour les auditeurs. Tourisme durable, tourisme responsable, qu'est-ce qui se cache derrière ces concepts?
Alors, le tourisme durable, en fait, il est né suite au développement durable. C'est un peu son prolongement, c'est-à-dire en matière de tourisme. On va dire que c'est un tourisme plutôt institutionnel, universitaire, voilà, on va dire plutôt théorique. Le tourisme responsable a voulu s'en démarquer, on peut dire que l'appellation elle date environ des années 2007-2008, et elle a voulu s'en démarquer pour être un petit peu plus proche du terrain, avec, on va dire, toujours les trois piliers que l'on trouve dans le développement durable, quoi qu'il en soit.
Après, j'imagine qu'il y avait des pratiques qui s'assimilaient au tourisme durable ou responsable bien avant, mais voilà, c'est vraiment avec le concept de développement durable dans les années 90, et après on le retrouve dans d'autres domaines, le passage durable responsable qui est plus global, qui englobe les différents domaines, que ça s'est vraiment développé.
Oui, bon, pour avoir été sur le terrain toute ma vie, on écrivait déjà des textes en 1994 que l'on revendiquerait aujourd'hui, c'est-à-dire que le tourisme que l'on pratiquait déjà à cette époque-là était déjà dans les critères du tourisme responsable, mais on n'avait ni ce vocable à disposition, ni un public, ni une audience. Voilà, on était un petit peu tout seul dans notre coin.
Et vous, c'était plus sur une des branches, c'était plus sur le côté environnemental ou économique ou culturel?
Non,
ou...
En fait, en matière de tourisme, souvent, on oublie le côté social. Et pour moi, le côté social, c'est le côté essentiel. Bien sûr, le côté environnemental, la gouvernance sur les territoires, c'est très important. Mais le côté social, c'est le plus complexe, c'est le plus compliqué. Et toute ma vie, j'ai été confronté à des rencontres en ayant l'impression d'être pas vraiment à ma place, avec trop de touristes derrière moi. Ça, c'était des agences qui m'avaient employé, qui m'avaient fourni un nombre de touristes un peu plus supérieur à ce que j'aurais pu vouloir, moi, accompagner. et de l'autre côté des gens qui nous disaient « Ah, on a besoin de vous, revenez, quand est-ce que vous revenez, parce qu'on a besoin économiquement de vous. » Et en fait, on est toujours, quand on est sur le terrain, plus ou moins placé au milieu de cette problématique.
Vous, Ophélie, le tourisme durable, qu'est-ce que c'est pour vous alors ?
Alors, d'un point de vue très concret, le tourisme durable, c'est un tourisme positif qui respecte la planète et les habitants. Donc, c'est l'idée d'appliquer le développement durable au tourisme, donc avec les trois grands piliers du développement durable. Le premier pilier qui est environnemental, deuxième pilier, le pilier économique, et troisième pilier, le pilier social. Après, moi, j'aime vraiment bien aussi cette notion de tourisme responsable, parce que on implique la responsabilité des opérateurs touristiques et des voyageurs. Et je pense que c'est comme ça qu'on fera concrètement avancer les choses, en impliquant un petit peu les deux parties.
Et par rapport aux autres concepts, si on reste un peu dans les définitions, on voit tourisme solidaire, tourisme équitable. Là-dessus, vous positionnez comment le tourisme durable par rapport à ce sujet ?
Bah, le tourisme durable, il va englober le tourisme solidaire, puisqu'il va prendre en charge, il va s'intéresser à la question sociale, mais il va aussi prendre en compte ce qu'on peut appeler l'écotourisme, c'est-à-dire la partie plus écologique. Voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a eu des petites études qui ont été faites par rapport au tourisme durable, et on a remarqué qu'au début, les gens étaient peut-être plus sensibles au tourisme écologique. Et là, on voit qu'il y a une étude qui a été faite par ATR en 2016, et que maintenant, les gens finalement sont peut-être plus sensibles au côté social, au côté contact avec les habitants, respect des populations locales. C'est quelque chose qui concerne de plus en plus les voyageurs.
Du coup, je poursuis sur ce que vous dites, ce que vous avez cité ATR. Alors peut-être pour poser
c'est
un
pas
peu...
aviation, le transport régional, c'est pas les avions.
C'est pas les avions.
Pas du tout. Peut-être... Il existe une multitude d'acteurs qui s'engagent pour fédérer les acteurs touristiques qui sont engagés dans cette démarche. Donc ATR, c'est agir pour un tourisme responsable. Donc eux, ils fédèrent les voyagistes qui souhaitent s'engager dans une démarche de tourisme responsable.
D'accord.
Donc parmi les acteurs, vous avez par exemple Evaneos, vous avez Double Sens et La Balaguère.
OK.
Et donc eux, ils ont ATR, ils ont fourni une étude en 2016 très intéressante avec plein de chiffres, je pense très très pertinent par rapport au tourisme durable.
Et d'ailleurs, on peut peut-être continuer à évoquer ce jeu d'acteurs, parce que finalement, quand on fait des recherches sur internet sur le tourisme durable, on est tout de suite en lien avec différents réseaux, différentes associations. Je ne sais pas, Monsieur Lamic, sur comment vous positionnez l'association.
Sur ce que vient de dire Ophélie,
il y a pas de problème.
Avant de parler de mon association, parce qu'il y a deux points sur lesquels je ne suis pas tout à fait d'accord. Le premier point, c'est l'écotourisme n'est pas le tourisme écologique. Le mot éco, étymologiquement, veut dire maison en grec. Et donc, l'écotourisme, au sens étymologique du terme, c'est un tourisme qui va se faire de manière respectueuse à la planète et à ses habitants, puisque la planète est la maison dans cette étymologie. Et donc, l'écotourisme va bien au-delà d'une simple balade dans un parc national, par exemple. Hein, donc, l'écotourisme, pour nous, on peut dire que l'association que je dirige... On revendique d'être le premier réseau en France d'écotourisme, donc on a étudié...
Vous utilisez plutôt ce vocable.
Voilà, nous on utilise
vous êtes plus sur l'écotourisme.
Il est effectivement plus parlant et pour les gens, et aussi parce que si on le prend dans sa définition que je viens de vous donner, il recouvre finalement très largement le tourisme durable. On va dire que la seule notion qui n'est pas vraiment prise en compte dans l'écotourisme, c'est la notion, on va dire, de déplacement lointain. Voilà, l'écotourisme, en théorie, ça devrait rester du séjour et du séjour de proximité si on voulait être réellement durable. Voilà. L'autre point sur lequel je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est que ATR ne fédère pas, loin s'en faut, que des acteurs engagés. J'ai travaillé pendant 9 ans pour des acteurs membres de ce réseau, donc je sais à peu près de quoi je parle. Et pour moi, c'est surtout du tourisme responsable de façade en grande partie. Pour les auditeurs qui nous écoutent, il y a un critère très facile. Il n'y a pas besoin de s'appuyer sur des labels compliqués avec des critères compliqués et volontairement, je dirais, flous, vous voyez, pour que ça puisse être interprété comme on en a envie. Le critère, c'est simplement de regarder les brochures. Voilà. Vous regardez les brochures et vous regardez et vous comparez. Et quand vous avez sur dans un même réseau 5 ou 6 agences de voyage qui commercialisent le même voyage à la virgule près, parfois même en prenant les fautes d'orthographe dans les programmes, on ne peut pas dire là qu'on fait du tourisme responsable. Pourquoi ? Parce qu'on concentre les masses, on concentre les foules sur des micro-territoires. Voilà, tout simplement.
D'accord. Justement, vous parliez des masses, Ophélie, vous voulez...
Oui, je voulais rebondir. Donc, bien sûr, moi, je suis pas là aujourd'hui pour représenter ATR ni forcément les autres réseaux. Alors, moi, je suis éditrice de guide de tourisme durable. C'est vrai que nous, au-delà des définitions, c'est plutôt les projets derrière qui nous intéressent. La question, c'était par rapport aux acteurs. Donc, il y a ATR, moi, qui m'intéressait pour la petite étude de marché qu'ils ont faite, qui nous donne des chiffres, parce que finalement, il y en a pas beaucoup. Je vais juste rapidement quand même citer les autres, parce que je pense que même si on est il y a des petites guéguerres comme ça entre tous les réseaux. L'important, c'est plus que et même si on n'est pas tous d'accord sur les terminologies, au final, l'important, c'est de faire avancer les choses ensemble. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, vous avez ATR, vous avez l'ATES, vous avez ATD, acteur pour un tourisme durable, donc qui fédère tous les acteurs du tourisme durable et qui organise des trophées, des universités du tourisme responsable. Voilà. Donc ça, c'est important. Mmh. C'est important d'en parler.
Oui, mais ce ne sont pas des acteurs de terrain, Ophélie, ATD. Voyageurs et voyagistes éco-responsables que vous n'avez pas cités et que je représente donc ce soir. Nous sommes une fédération de 20 agences de voyage et nous avons comme adhérents, donc des gens qui payent une cotisation, c'est quand même pas anodin, 5 000 voyageurs qui ont tous voyagé de manière responsable. Donc ça donne, on va dire... crédibilité à notre réseau qu'aucun autre réseau n'a, puisque nous associons aussi bien les voyageurs, voilà, 5 000, les voyagistes, qui peuvent être soit des associations, soit des agences de voyage. Nous avons des guides indépendants, et puis nous avons des hébergeurs. Donc nous avons toutes les composantes du tourisme qui se sont orientées vers le tourisme responsable. Notamment, peut-être qu'on peut dire un mot des hébergeurs, parce qu'il y a des hébergeurs qui ont vraiment effectuer des réalisations incroyables en termes d'économie d'énergie, d'énergie positive, de piscines qui ne sont pas pesantes, des gens qui font manger des herbes qui cultivent sur leur terrain. Enfin, il y a tout un tas de choses très intéressantes qu'on met souvent pas assez en valeur d'ailleurs quand on parle de tourisme.
Tout à l'heure, vous parliez des masses. Si le tourisme durable, en un premier temps, responsable, existe, c'est quand même par opposition au tourisme de masse et par rapport aux excès, aux impacts négatifs sur l'environnement, sur les populations locales. Quels sont les points qui, pour vous, différencient fortement les voyagistes classiques qu'on peut qualifier de tourisme de masse par rapport aux organismes qui se revendiquent plus du tourisme responsable.
Est-ce que je peux répondre sur cette question ?
Oui, mais chacun a la parole.
En fait, il y a un point essentiel. Il y a un point essentiel, c'est-à-dire qu'on utilise tous un territoire quand on fait du tourisme. Ce territoire, il a une capacité de charge. Vous allez prendre, par exemple, une piste de ski, comme ça va parler à vos auditeurs, et de visu... sur certaines grandes stations que je ne citerai pas, il n'y a pas besoin de faire une étude bien longue pour se rendre compte que la capacité de charge de la piste de ski, elle est largement dépassée et que ça devient dangereux. En matière de tourisme, d'écotourisme, c'est la même chose. C'est-à-dire que on utilise un territoire. Si on est le seul à utiliser ce territoire, il n'y aura pas de surfréquentation et on pourra gérer, on va dire, son groupe de la manière... dont on souhaite pour être responsable et avoir des contacts et des échanges équilibrés avec la population. Si, en revanche, il n'y a pas besoin du... Souvent, on a une idée que le tourisme de masse, voilà, c'est les plages qu'on voit l'été avec des serviettes qui sont côte à côte sur toute la longueur de la plage. Mais il y a aussi eu du tourisme de masse dans le désert. Il y a aussi du tourisme de masse aujourd'hui.
En fonction du territoire, en fonction
de la capacité.
Voilà. Pourquoi ? Parce que ce sont des micro-territoires où il n'y a pas besoin de 2000 personnes pour qu'on soit en surfréquentation. Parfois, avec 100 personnes, on est déjà en surfréquentation. Et donc, quand tous les tour opérateurs se disent, on va dire, responsables, vendent les mêmes programmes, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, on va arriver à ces surfréquentations, même s'il n'y a pas 2 ou 3 000 voyageurs. Voilà. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est le territoire d'accueil qui définit sa capacité de charge. Ça, c'est le terme technique. On va dire capacité d'accueil pour que tout le monde comprenne bien. Et en fait, un opérateur responsable devrait être celui qui, en faisant fi des profits qu'il pourrait faire sur certains territoires, dirait, bah, moi, là, je ne vais plus y aller, je ne vais plus organiser de séjour parce que le territoire est saturé. Et il y a tout un tas de territoires aujourd'hui qui sont saturés et sur lesquels, malheureusement, beaucoup d'opérateurs continuent à envoyer des groupes en nombre croissant.
Voilà. Ophélie, peut-être une position là-dessus ?
Bah nous, en fait, en tant qu'éditeur de guide de voyage, hein, parce que moi, je travaille donc pour aucun des réseaux dont j'ai parlé tout à l'heure, je travaille pour un éditeur complètement indépendant qui s'appelle les éditions Via Tao. On édite les guides Tao, ce sont des guides de tourisme durable. Et donc nous, eh bien, on travaille sur plusieurs destinations, des destinations où il y a énormément de monde, et puis des destinations qui sont peut-être plus insolites. Et donc on essaye à chaque fois de mettre en valeur des acteurs concrets, donc que ce soit des hébergeurs, des restaurateurs, des gens qui organisent des tours, des randonnées, et qui s'engagent donc concrètement en faveur d'un tourisme durable. Et donc, on observe à chaque fois bien l'engagement écologique, donc comment les lieux vont faire bâtir des plans de construction qui vont permettre d'économiser l'énergie, qui vont permettre d'utiliser moins d'eau, comment ils vont s'approvisionner, est-ce qu'ils vont utiliser des produits écologiques ou pas, quelle va être leur politique sociale aussi, comment ils vont traiter leurs salariés, est-ce qu'il va y avoir l'argent qui va être réinvesti dans les circuits locaux. Voilà, concrètement, on est vraiment dans ce travail de terrain. Voilà, au-delà des
concepts. Mais justement, voilà, dans la deuxième partie de l'émission, on va quitter un peu les concepts, on abordera plus les expériences concrètes, les pratiques. On va faire une première pause musicale avec La Piragua de Gabriel Romero.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. Donc l'émission Mode d'emploi animée par la Fondation Copernic ce soir est consacrée au tourisme durable. Donc après avoir posé un certain nombre de principes et de concepts, l'idée était maintenant de s'intéresser un peu au cœur du métier et aux pratiques. Nous avons la chance de recevoir donc deux acteurs de terrain, donc Ophélie Cohen et Jean-Pierre Lamic. Ce soir, peut-être Jean-Pierre, plus concrètement sur ce que vous qui avez vous qui êtes un grand voyageur depuis plusieurs années, concrètement sur le terrain, les pratiques d'un tourisme, enfin de l'écotourisme, comment ça se passe?
Alors, ben ça change beaucoup d'un territoire à l'autre en fait. C'est souvent le territoire qui détermine beaucoup. Par exemple, j'ai une habitude de dire, c'est que autour des plus grandes stations de ski, autour des plus grandes stations balnéaires, autour des plus importants sites touristiques au monde, vous avez toujours des déserts touristiques. Mmh. Et donc nous, en tant qu'acteurs de terrain chez VVE, c'est l'abréviation de responsable, nous, ce que l'on cherche, ce sont ces déserts. C'est-à-dire, on va passer des journées, des semaines, des mois. C'est ce que je suis en train de raconter dans un livre sur Cuba que je publierai dans un mois. Voilà, 20 ans de recherche. Mmh. 20 ans de pérégrination à chercher des nouveaux sentiers pour, petit à petit, au fur et à mesure que d'autres groupes débarquent sur des territoires qu'on avait découverts avant, et ben on en cherche d'autres, voilà, on continue à aller chercher ces déserts. En fait, moi je suis quelque part un découvreur, un chercheur de déserts touristiques, voilà. Mmh. Et c'est devenu très rare en fait. Dans notre réseau, nous on n'a que des gens qui sont dans cette démarche, c'est-à-dire des gens qui vont créer des voyages totalement uniques. On est hors concurrence, voilà. Et donc pour moi, sur le terrain, l'écotourisme, c'est-à-dire c'est chercher les endroits où on ne va pas ni copier ce que fait le voisin, ni utiliser les mêmes territoires pour s'en démarquer et pour avoir sa propre marque de fabrique. Voilà, je crois que c'est essentiellement ça le tourisme responsable.
Donc dans votre réseau, c'est valable aussi bien à l'autre bout de la planète que en France, sur des territoires beaucoup plus proches.
Et par voie de conséquence, si vous voulez, pour pouvoir créer un voyage de ce type-là, on est obligé d'utiliser des savoir-faire, des gens qui sont des gens qui maîtrisent parfaitement le terrain. Alors c'est dans tous les niveaux de la chaîne, c'est-à-dire celui qui va vendre le voyage à l'agence. Si c'est pas, des fois, c'est souvent le concepteur lui-même du voyage, mais si c'est pas le concepteur lui-même du voyage, il faut des employés qui soient formés, qui soient allés sur place. C'est comme ça que, par exemple, j'ai emmené, il y a un an et demi, la commerciale de l'agence pour laquelle je travaille, à Cuba, pour qu'elle fasse tout le circuit en situation avec des clients, pour qu'elle puisse le vendre correctement. Et ça, c'est essentiel. Et donc, les voyages sont créés, non pas en sous-traitant par Internet, en appuyant sur un petit bouton et puis on trouve quelqu'un qui sait faire ça loin de chez nous ou qu'on connaît pas forcément. Pour moi, ça, c'est pas du tourisme responsable. Tourisme responsable, c'est on maîtrise tous les éléments de la chaîne. C'est-à-dire, s'il y a un maillon de la chaîne qui casse, un problème quelconque qui va intervenir, parce que dans le voyage, l'aléa fait partie du voyage, eh bien, le responsable, c'est celui qui vend, c'est le produit. Et donc lui, s'il y a un maillon qui casse, il va savoir le réparer. Si c'est un sous-traitant d'un autre sous-traitant, le problème ne sera pas résolu et le voyageur va aller de déconvenu en déconvenu.
Voilà. Du coup, comment vous assurez des retombées économiques sur place? Vous travaillez quand même, j'imagine, avec des acteurs locaux que vous préférez donc bien connaître,
oui.
Être plus en confiance.
Exactement. C'est une relation de confiance, souvent sur des années. Bon, moi, j'ai la chance d'avoir voyagé pendant 30 ans, mais sur certains voyages que j'accompagne encore aujourd'hui, j'ai des relations depuis 20 ans avec certaines des personnes qui m'accueillent chez elles. Ce qui fait que quand j'arrive chez elles, on va pas me dire « Ah ben non, j'ai réservé pour un autre, va chercher à côté, quoi ». Voilà, il y a des relations qui sont établies, qui sont là, et c'est la garantie pour le client d'être bien servi, d'être le premier à être servi. Voilà, c'est quelque part le tourisme responsable, c'est la qualité. Voilà, c'est la qualité. Souvent, les gens pensent tourisme responsable, ça va être plus cher. Non, on a des séjours nous sur le site. Qui sont très bon marché. Ça dépend de la durée, ça dépend de des prestations qu'on a mises à l'intérieur. S'il y a beaucoup de déplacements, ça sera plus cher qu'il y en a moins. Et en général, dans l'écotourisme, il y en a moins. Si on est sur des durées plus longues, souvent on va être moins cher. Vous voyez, mais au final, c'est la qualité. Nous, quand on fabrique un voyage, ce que l'on veut, c'est un voyage de qualité qui ne soit pas le concurrent d'un autre voyage existant. temps, qu'il soit quelque chose de particulier et qu'il soit établi dans une relation de donnant-donnant avec nos partenaires. Voilà. Et c'est pour ça que beaucoup d'acteurs qui revendiquent être ou appartenir au tourisme responsable en sont très très éloignés si l'on prend ce critère-là pour dire voilà, c'est ça le tourisme responsable.
Ophélie, du coup, votre position et puis votre savoir-faire aussi sur le terrain, concrètement, ça se traduit
Bah concrètement, je suis assez d'accord avec ce que je viens d'entendre. Nous aussi, quand on cherche des auteurs pour écrire des guides, on cherche vraiment des gens qui vivent sur place depuis longtemps, qui connaissent très bien le territoire et ses particularités, qui connaissent aussi les acteurs qui sont engagés depuis longtemps. Donc ça, je pense que c'est vraiment là-dessus, c'est clairement quelque chose qui est très important. Après, sur ce qui a été dit, je suis également d'accord avec cette idée d'un tourisme de qualité qui est positif. Nous, on essaie vraiment de casser les stéréotypes comme quoi le tourisme durable, ce serait un voyage un peu rébarbatif, qui serait cher aussi. Nous, on peut se faire plaisir en voyageant durable et on essaie aussi de proposer des grilles de prix très différentes à nos voyageurs dans les adresses qu'on propose, parce que on peut aussi voyager par exemple trouver des hébergeurs qui sont dans des communautés où on peut travailler sur place et puis être hébergé gratuitement. Voilà, ça c'est quelque chose d'important.
C'est accepter de payer un prix juste finalement.
Oui, ça c'est vrai aussi. C'est marrant parce qu'on a créé il y a quelques années une nouvelle rubrique dans nos guides qui était une rubrique c'est gratuit, parce qu'on disait c'est vrai que parfois on est limité en voyage, on a l'impression que... Et il y a un de nos auteurs qui nous disait non, je suis pas d'accord, tout a un prix, il faut accepter aussi de payer, donc bon... Mais c'est important aussi qu'il y ait un juste prix et surtout que l'argent soit réparti équitablement. C'est-à-dire que quand on va dépenser son argent sur place, que l'argent elle profite aux locaux, qu'elle promeuve...
Pas seulement aux voyagistes occidentales qui nous amène là-bas. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous raconter le dernier guide sur lequel vous avez travaillé, une expérience intéressante chez un hébergeur, un guide
En fait, moi, je suis éditrice et donc, comme je vous ai expliqué, tout le principe, c'est que nous, c'est pas nous qui nous déplaçons, on envoie des gens qui sont sur place. Donc,
vous les relisez quand même, ils font des erreurs.
Ah oui, bien sûr. ouais, bien sûr. C'est marrant parce qu'effectivement, là, des théories et des... Nous, on fait des guides sur le monde entier. Donc là, cette année, j'ai travaillé sur la Colombie, j'ai travaillé sur la France, sur le Portugal et on a des réalités qui sont très différentes. On a établi, nous, parce que on parlait un petit peu des labels, il y a énormément de labels qui permettent d'orienter ou pas les gens sur le tourisme durable, et parfois les gens sont un peu perdus. Donc nous, on a fait nos grilles d'évaluation.
Parce que du coup, c'est des labels qui sont pilotés par des associations. Il n'y a pas un label qui s'impose avec un coup de tampon d'un pouvoir public, quoi. De l'ONU, par exemple.
Non. Il y a plein de labels différents. Et c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver. Donc nous, parfois, on peut citer les labels dans nos guides, mais nous, on a mis au point une méthodologie avec des critères d'évaluation très précis. On forme les auteurs et comme ça, une fois
donc
sur le terrain...
C'est presque un label de plus, finalement. C'est-à-dire que vous ne reposez pas uniquement sur les différents labels.
Non, parce que c'est très relatif. Disons que peut-être que dans certains pays, par exemple, à un moment, on avait fait le guide Mali, et ben l'auteur, il galérait quand même pas mal pour trouver des herbes. Bon, alors peut-être maintenant c'est même compliqué
oui,
parler de.
Oui, c'est encore plus compliqué.
Ouais. Mais à l'époque, l'auteur vraiment avait des problèmes à mettre au point toute cette méthodologie. Parce que concrètement, on n'a pas les mêmes moyens pour monter une structure touristique dans certains pays. Ou dans d'autres pays.
Et du coup, moi j'ai une question, mais ça s'adresse un peu à vous deux. C'est finalement, Jean-Pierre, vous parliez de responsabilité, de comment organiser un voyage, de s'assurer aussi que ce voyage sera durable ou responsable. Il y a aussi cette notion de partage de responsabilité. En fait, c'est comment s'assurer que finalement que la personne qui voyage, au-delà de s'ancrer dans un voyage responsable, soit lui-même responsable, parce qu'il peut avoir des pratiques sur place qui ne sont pas du tout responsables. Alors la question se est posée à vous deux, je ne sais pas qui, Jean-Pierre peut-être.
Oui, alors je veux bien. Je voudrais juste rebondir. Je vais revenir à votre question sur ce que disait Ophélie au préalable. C'est-à-dire que chez VVE, dans notre association, on a travaillé pendant 10 ans avec des scientifiques et on a recoupé tous les critères de tous les labels existants. Mmh. Donc c'est un travail qui a été fait, donc je lance un appel au pouvoir public, bénévole, qui a été fait, c'est des milliers d'heures. Et donc de ça, on a créé deux systèmes d'évaluation, un concernant les hébergements et un concernant tous les types de voyages. Ce qui fait qu'un supra-système d'évaluation sur le terrain d'une activité, c'est-à-dire qu'elle soit d'ordre juste d'un hébergement ou d'un voyage très complexe, on est capable de l'évaluer avec notre outil. On l'a d'ailleurs fait en relation avec l'Université de Bruxelles, donc c'est un travail international. Donc, j'en profite pour dire que c'est très dommage. Nous, on avait invité en 2010 tous les acteurs du tourisme durable, justement sur cette question. On souhaitait travailler ensemble, main dans la main, sur la question des labels. Chacun a préféré faire son propre label. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est une grave erreur parce que ça induit beaucoup en erreur les voyageurs. Et les voyageurs, ils ont besoin d'y voir clair. Comme quand on achète un œuf, on a besoin de savoir s'il est bio ou s'il n'est pas bio. Voilà, ben c'est la même chose. Mmh. Et là, pour le moment, le voyageur ne sait pas faire la différence. On a un autre souci, si vous voulez, dans le tourisme responsable, c'est que souvent, donc là, je reviens à votre question, c'est que souvent, le critère premier, ça reste malgré tout le prix. Le critère de choix, faut pas se leurrer au jour d'aujourd'hui, ça reste le prix. Et malheureusement, je dirais... Ce critère premier va souvent, pour quelques dizaines d'euros parfois, orienter le consommateur, et j'utilise le mot à bon escient, le mot consommateur, vers un produit qui ne sera pas ni durable, ni responsable, ni respectueux des populations locales, alors qu'avec un budget quasiment équivalent, il pourrait effectuer un choix différent et avoir un voyage beaucoup plus responsable. Pour revenir sur une notion qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est Ophélie qui l'a évoqué, la notion de communauté. Pour moi, elle est primordiale, la notion de communauté. C'est-à-dire que vous allez faire un voyage qui se dit solidaire dans un village où il n'y a pas de communauté existante. Bah, qu'est-ce qui va se passer? Souvent, il va y avoir une personne ou deux ou trois ou quelques-unes qui vont bénéficier au maximum des retombées du tourisme que vous allez apporter. Et vous allez créer, sans même le vouloir, sans même vous en rendre compte, parce que vous reviendrez pas forcément 20 ans après, des potentes, ce que moi j'appelle des potentats locaux. C'est-à-dire des gens qui ont pris le pouvoir sur leur communauté par l'argent. Alors qu'au départ, nous, on avait une volonté d'aider ces populations. Hein. Vous voyez, c'est pernicieux. Alors, pourquoi la communauté, c'est primordial? Parce que dans le cadre d'un tourisme solidaire qui se fait non plus... dans le cadre d'une famille ou dans le cadre d'un écologe ou d'une micro-société. Si ça se fait dans le cadre d'une communauté, comme par exemple en Équateur, vous avez des résultats extraordinaires en Équateur ou au Mexique, dans les villages indigènes. Pourquoi? Parce que si on donne de l'argent à cette communauté, l'argent, il va pour construire une école pour toute la communauté ou refaire les égouts ou l'adduction d'eau. Enfin bon, on génère une activité qui va être bénéfique à toute la communauté. Et donc, le voyage solidaire, c'est pour moi le plus complexe parce que il faut qu'on voit derrière, un, si c'est quelques personnes qui en profitent ou une communauté élargie, et il faudrait pouvoir évaluer sur le long terme.
Oui, parce que ça peut être à un moment donné une situation à peu près claire, mais bon, une fois qu'un acteur prend le dessus, j'imagine que c'est pas simple
et souvent,
d'être délogé, entre guillemets.
Important parce que si vous voulez, dans une communauté ou dans un village, il y a le chef qui est établi, politique ou religieux ou ethnique. Et si vous faites du tourisme solidaire et que vous générez des revenus supérieurs pour une personne qui au départ ou un groupe de personnes qui au départ était considéré inférieur dans la hiérarchie, vous allez créer des troubles et souvent des problèmes assez graves. Ouais. Tout en voulant aider les communautés. C'est pour ça que le tourisme solidaire, ça ne s'adresse pas aux personnes qui vont une fois dans une famille. On est bien reçu, on va les aider, et ensuite on fait venir des gens là. Non, ça ne s'appelle pas du tourisme solidaire. Parce que là, on va créer une famille de privilégiés à côté d'autres qui ne le sont pas.
Pour revenir à la question de comment on responsabilise les gens, parce que je pense que c'est important, et nous, c'est à la base de tout notre engagement, je pense que c'est une question aussi d'information, de façon de présenter les choses, de sensibiliser. Nous, à travers nos publications, c'est ce qu'on fait depuis 10 ans. Donc on explique aux gens concrètement sur le terrain comment ça se passe, parce que c'est pas forcément qu'une question d'argent aussi. On peut faire attention à notre façon d'être, à notre façon de consommer, à notre façon d'être aussi avec les autres sur le terrain, de pas arriver comme ça en terrain conquis, mais de faire attention aux particularités culturelles, d'être curieux, d'observer, de pas jeter ses déchets en plastique, de pas acheter des petites bouteilles d'eau, prendre plutôt une gourde si on peut. Plein de petits gestes simples comme ça, mais qui peuvent concrètement faire changer les choses. Et donc ça, c'est important qu'il y ait de plus en plus de communication là-dessus, et puis que les gens prennent conscience. Et je dirais que comment on peut faire de la communication, mais aussi on peut aussi faire comprendre aux gens que quand on agit différemment en voyage, peut-être le voyage aussi est plus intense et qu'on va rencontrer les gens, que ça va mieux se passer et que l'expérience sera plus belle. Et quelle meilleure façon que de convaincre les gens?
En matière de tourisme responsable, on est souvent en train de lutter contre des tendances sociétales. La tendance sociétale forte dans le voyage, c'est de vouloir tout voir au cours du même voyage. Malheureusement, nous, on n'est pas dans cette dynamique-là. Il parle de rencontre. Une rencontre, ça se fait pas en 3 minutes sur un trottoir.
C'est vrai qu'il faut encourager les gens à partir aussi plus longtemps. Ça, c'est quelque chose, nous, qu'on dit, parce que la problématique du transport, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est une problématique fondamentale. Et nous, on dit aux gens, effectivement, l'avion, ça pollue. Alors, si vous partez loin, si vous prenez l'avion pendant longtemps, restez longtemps sur place.
On va prendre le temps, justement, d'une petite intermède musical avec Tic Ordéon de René Lacaille et Daniel Varro.
Qu'on aime bien Cordéon, Cordéon lui-même ça mon talon il aime dans un salon, la même mon ami rond dans le rond, le rond les serrés mi transpire fort.
Tu caresses les poids nous danser.
Tonton Cipéron, le vol est bon, Léon, avec son cordéon.
Ah, il y avait la fin de la chanson.
C'est pas prévu, celui-là.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, donc 106.3 FM. Donc l'émission de ce soir, animée par la Fondation Copernic, est consacrée au tourisme durable. Donc on s'était quitté avant la pause sur le sujet des transports, qui est vrai un véritable enjeu quand on parle de tourisme. Alors, est-ce que, comparativement à ce qu'on connaît depuis quelques années sur l'alimentation, est-ce qu'il y a des locavores du tourisme? Comment concrètement ça se traduit?
On sent en tout cas qu'il y a un intérêt de plus en plus pour peut-être redécouvrir son territoire, le voyage en France. Nous, on voit nos guides, nos destinations France, comme la Corse, où là, on vient de sortir un guide sur la France. Ça marche très bien. Les destinations méditerranéennes, par exemple le Portugal aussi, marchent très bien. Donc, c'est vrai qu'il y a cette idée de rester plus près de chez soi et de redécouvrir le autour de chez soi, en tout cas si on veut voyager sur des petites distances. Après, il y a cette idée aussi du slow tourisme, comme c'est la grande mode. Mais je pense qu'il y a vraiment derrière la mode, il y a une idée de fond qui est vraiment intéressante, qui rejoint ce que je disais tout à l'heure, qui est si on part loin, partons longtemps et prenons le temps de découvrir et de partir à la recherche de l'insolite et des...
C'est vrai que ça peut être compliqué de concilier tourisme et durable, enfin sur la problématique des transports, par exemple.
Oui,
Jean-Pierre.
Si vous voulez, il y a plusieurs facettes. Il y a la personne qui va, comme disait Ophélie, choisir un territoire proche de chez elle. Elle va prendre sa voiture, pas faire beaucoup de kilomètres. Éventuellement, maintenant, on a le covoiturage qui peut aider à remplir les véhicules. Mais pour moi, il reste un point noir. Ordinaire, c'est le transport public en France. Je voudrais quand même, j'ai beaucoup voyagé dans le monde, n'importe quel bout de territoire de Turquie, du Mexique ou d'ailleurs, vous l'atteignez avec les transports en commun et ça se termine des fois dans un pick-up peut-être, mais au moins vous y arrivez. En France, le dernier kilomètre, il existe on y part. C'est-à-dire que vous allez vouloir aller au sport d'hiver, et ben souvent vous êtes obligé de prendre votre voiture tout simplement parce qu'il n'y a rien, ça coûte très cher.
Alors qu'elle ne sert pas du tout sur place.
Voilà, et en plus c'est un poids mort, elle coûte cher au parking, et si elle est en extérieur, il faut la déneiger, elle s'abîme, etc. Donc c'est vraiment...
Bon, il y a quelques réseaux de bus quand même, il ne faut pas non plus dire qu'il n'y a rien du tout.
Mais en fait, si vous voulez, je vais...
Mais il n'y en a purement pas assez.
Il y a 3500 voitures par jour qui montent de Bourg-Saint-Maurice à Pignes et Val-d'Isère.
Ah bon, là, il y a des bus quand même. C'est des gens qui peuvent aller.
Le bus, il est à destination uniquement du voyageur, à des tarifs qu'aucun saisonnier, qu'aucun employé ne peut
payer. D'accord, oui. Par
et qu'aucun voyageur, on va dire, une famille de 6 enfants, ça lui coûte 70 euros. Voilà, c'est quand même...
Du coup, vous, comment vous traitez cette problématique transport dans le voyage de votre association?
Nous, on essaye toujours de minimiser notre devise. C'est pas vous avez des voyagistes qui, pour continuer à faire des voyages lointains, vous disent compenser votre voyage. Nous, on a longuement étudié cette question. On a fait des articles sur cette question et on en a... On est venu à la décision de ne pas compenser nos déplacements, mais de les limiter. La seule manière, on va dire, d'être le plus responsable possible, c'est de les limiter. Ça veut dire que vous allez les limiter de chez vous au point d'arrivée, et vous allez les limiter aussi durant votre voyage. C'est pour ça qu'on revient à la question de temps. C'est-à-dire que si vous prenez du temps, vous allez pouvoir limiter vos voyages à l'intérieur du voyage. Si vous faites des voyages sur une courte durée, vous ne pourrez plus limiter vos déplacements parce que dans le voyage, il va falloir aller à tous les points qui sont à voir sur le territoire défini. Donc nous, c'est la limitation, on va dire, dès le départ. C'est pour ça qu'on ne peut pas pondre, excusez-moi d'expression, un voyage et puis après dire « Ah, bah, il est responsable ». Non, un voyage, ça se conçoit responsable ou pas responsable, à la base. Et quand ça se conçoit responsable, c'est la question primordiale, c'est de dire combien on va effectuer le déplacement, comment est-ce que je vais choisir. Par exemple, moi, dans les îles éoliennes, j'ai systématiquement affrété des petits bateaux privatisés qui consomment beaucoup moins que ces gros aliscaf, c'est-à-dire les hydroglisseurs, qui démarrent dans un nuage de pétrole. Voilà, bon, concrètement, on a, quand on connaît le territoire, à sa disposition des moyens de limiter ses déplacements et ses émissions. Voilà. Mais encore faut-il prendre ce problème-là à l'origine, à la base, au moment où on crée le voyage.
Sur le volet environnemental, au-delà du transport, Ophélie, dans vos guides, j'imagine, vous évoquez aussi le respect des sites naturels qu'on visite, la protection de la biodiversité, l'alimentation, parce que si on garde un mode d'alimentation occidental dans un pays lointain, ça risque de pas être très
C'est pas intéressant déjà. Premièrement, si c'est pour manger pareil que chez soi, autant rester chez soi. Et puis effectivement, sur l'alimentation, on s'intéresse énormément aux sources d'approvisionnement. Est-ce que les restaurants ils vont s'approvisionner en matière locale, en produits de saison? Ça, c'est des choses super, super importantes, effectivement, auxquelles on fait très attention. Et puis après, on donne toute une série de ce qu'on appelle d'éco-tips, de petites actions qu'on peut faire concrètement sur place, notamment par rapport aux sites naturels. Pas toucher au nid de tortues, pas nourrir les animaux. Des petits conseils comme ça qui permettent de concrètement... changer les choses. Et effectivement, je suis d'accord une fois de plus avec ce qui a été dit avant. Le voyage, ça se prépare aussi en amont. C'est pour ça que nos guides Tao sont parfaits. Parce qu'on peut préparer les choses et commencer à rêver en amont.
Si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, ce dont on vient de parler, voilà, pour moi, c'est ça l'écotourisme. Mm-hmm. Hein, c'est-à-dire, là, on est dans le concret. L'écotourisme, c'est ça. C'est-à-dire, je vais manger... un fromage local qui a été produit localement, qui n'a pas été produit de manière industrielle. Donc je suis dans une... L'écotourisme, c'est la microéconomie. Et la microéconomie sur un territoire donné. Voilà. Le territoire, il peut être plus grand. Hein, je cite toujours le chiffre où Cuba comme ils ont sous embargo, vous avez 60 ou 70% de ce que vous mangez dans un hôtel à Cuba qui est produit sur place. C'est pas un petit territoire. Et malgré tout, vous voyez, ça bénéficie aux agriculteurs locaux, à toute l'économie locale, etc. Inversement, dans un bateau de croisière, il y a moins d'1% de ce que vous mangez qui provient du trajet que vous effectuez. Donc voilà, ça donne vraiment une idée. Et l'écotourisme, en principe, si c'est pensé en amont, on va arriver pas loin de 100% des produits qui seront consommés par les touristes, par les voyageurs, qui sont ou cultivés ou vendus au niveau local.
Tout à l'heure, on parlait dans les communautés de l'aspect monopole de certains acteurs. On n'a pas parlé de dépendance à l'activité touristique sur les territoires sur lesquels les touristes se rendent. Comment vous abordez cette question
Par exemple, je pense à notre guide sur Madagascar où il y avait cette adresse justement d'un petit village où on pouvait dormir chez l'habitant et tout était organisé de façon communautaire. Mais dans cette organisation, ce qui avait de super intéressant, c'est que chacun gardait son métier. Donc comme ça, si jamais le tourisme à Madagascar s'écroulait pour une raison conjoncturelle, eh bien, quand même, on restait dans quelque chose de équilibré. Les gens se retrouvaient pas d'un seul coup
sans aucune
ressource.
Quoi.
Ouais, ouais. Et donc ça, c'est
vrai à l'échelle collective du pays et à l'échelle individuelle.
Ouais, bien sûr. Mais après, ouais.
Si on pratique l'écotourisme, le fait que, on va dire, les produits locaux sont produits et vendus quasiment sur place. On est beaucoup moins tributaire de l'effondrement du système si les touristes ne viennent plus parce que souvent vous aurez de toute façon piqué découler vos marchandises sur le marché local, national et parfois vous avez un tourisme national qui prend la relève d'un tourisme international qui s'est effondré. Donc voilà, si on est effectivement sur un des systèmes macroéconomiques, là c'est et une monoculture touristique. Là, effectivement, c'est ce qui s'est passé dans beaucoup d'endroits en Mauritanie, en Algérie, en Tunisie, etc. au moment du printemps arabe. Malheureusement, tous les opérateurs se sont tous retirés en même temps, sans compensation aucune. Et j'ai un ami Touareg qui me disait il y a quelques mois en arrière, j'ai 22 4x4, j'ai enlevé les roues, ils sont posés sur cale, et ils sont dans le désert, ils attendent des touristes. Voilà ce que ça donne quand on est dans la macroéconomie et dans la non réflexion par rapport à ce que vous voulez dire.
Du coup, peut-être, parce que là je vois l'heure qui tourne, mais peut-être en une ou deux minutes chacun, comment vous voyez concrètement les perspectives un peu pour le tourisme durable? Alors j'ai pas les chiffres en tête de la part du tourisme durable par rapport au tourisme de masse, mais donc du coup, je vais reprendre votre titre, Utopie ou réalité, comment faire que ça devienne une réalité et que ça dépasse d'ailleurs la part de marché du tourisme conventionnel. Alors je sais que j'ouvre un débat peut-être plus long que les 5 dernières minutes, mais si vous voulez bien en une ou deux minutes répondre chacun à cette question.
Ben moi je vais vous dire rapidement ce que j'en pense. Quand j'ai créé ce livre, quand j'ai cherché ce titre, je penchais plutôt pour réalité, puisque nous on était dans la réalité. Depuis très longtemps. On faisait du tourisme durable sans même se poser la question depuis très longtemps. Et plus le temps passe, et plus, pour moi, le curseur, malheureusement, ce n'est pas du positif. J'aimerais bien être dans le positif, mais plus le curseur se déplace vers l'utopie. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'on ne vit pas dans un monde durable. Donc, le tourisme étant déjà, par rapport aux activités autres, une activité qui consomme beaucoup d'énergie, qui consomme beaucoup, qui engendre beaucoup de dépenses énergétiques notamment, plus ça va et plus on s'éloigne d'un tourisme qui serait durable à l'échelle du tourisme sur la planète, je parle, hein, je parle pas à des petites initiatives telles que les nôtres. Voilà.
Bah moi, je voudrais rebondir avec un point de vue plus optimiste et peut-être plus pragmatique, comme la pragmatique que je suis. Je pense que économiquement, ça devient plus intéressant pour les acteurs touristiques de s'engager dans des démarches de tourisme durable, puisque souvent, leurs investissements leur permettent plus de rentabilité à long terme. Les gros groupes touristiques s'y mettent. Alors, on peut parler de greenwashing, mais je pense que ça prouve que les choses sont en train d'évoluer et que donc on peut quand même être optimiste à ce sujet-là. Et tous les petits acteurs de terrain comme nous, via Tao, on continuera de se battre pour faire en sorte que le tourisme durable, ce soit plus un tourisme spécifique, que tout le tourisme soit durable.
Très bien, on vous remercie. On aurait pu, comme toujours, prolonger la discussion, mais on va devoir rendre l'antenne. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site Mode d'emploi ou le mercredi matin à 7h. On sera de retour au-delà de cet été avec deux rediffusions en septembre.
On va faire un peu de tourisme.
Quatrième vendredi du mois. On remercie Ophélie une deuxième fois parce qu'elle a assuré aussi la programmation musicale.
Et avec plaisir.
Et on va se quitter avec Fanta Burama. Je respire parce qu'elle n'est pas facile à prononcer.
Jelly Mandy Tumankara.
Voilà, bah, tu connais par cœur.
Celui-là. Magnifique guitariste.
Merci Jean-Pierre.
Bonne soirée, merci à tous.
Merci, bonne soirée.